David Abiker.
Et ce sont toujours les élections américaines qui sont à la une, David.
À commencer par la une des médias américains avec une synthèse de Courrier International qui a les accents du soulagement. À Courrier International, on préfère sans doute les démocrates. Beaucoup d'inconnus quant au résultat des élections de mi-mandat, mais une chose est sûre, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sera beaucoup plus compliqué, observe le Los Angeles Times. CNN observe également que les ténors du Parti républicain ont refusé de commenter les résultats en raison notamment d'un sentiment largement diffusé au sein du parti que Trump a nui à leur chance de victoire. Ça, c'est nouveau. De force mobilisatrice, Donald Trump serait donc devenu un boulet. Même Fox News relaie des critiques à l'encontre de l'ex-président. Fox News, c'est la chaîne pro-Trump par excellence, pourtant ultra-conservatrice. De nombreux observateurs ont vu dans le résultat des élections le signe qu'il était temps pour le Parti républicain de tourner la page Trump, qui a soutenu des candidats farfelus, ayant transformé des victoires faciles en courses serrées et des courses serrées en défaites. Voilà pour Trump, rhabillé pour l'hiver. Même dans la très conservatrice National Review, on peut lire ceci. À long terme, l'échec aux élections de mi-mandat pourrait aider le Parti républicain à se sevrer de Trump. Trump, c'était une drogue.
Nos confrères de Libération parlent de victoire ratée.
Le mot est assez juste. Pour Trump et les Républicains, c'est une victoire ratée. Pour les Échos, la marque Trump est usée, mais celle de Biden n'est pas plus fraîche. N'empêche, d'après Lucie Roquebin des Échos, constamment sous-estimée, le président américain qui fêtera ses 80 ans, Biden, donc, la semaine prochaine, se figure encore assez jeune pour envisager un second mandat. Et elle ajoute, malgré de belles victoires en Pennsylvanie et ailleurs, aucun des démocrates élus mardi n'incarne la relève. Et c'est encore plus flagrant quand dans Libération, on lit que les démocrates peuvent mettre à leur actif 4 victoires pour l'histoire. Pour l'histoire, avec l'élection de James Rosner, premier homme trans élu dans le New Hampshire, avec la victoire de Katie Breed, première femme sénatrice de l'Alabama, première femme, vous vous rendez compte, avec celle de Maura Healey dans le Massachusetts, première gouverneure lesbienne, et enfin avec celle de Maxwell Frost, première élue au Congrès de la génération Z, merveille, à 25 ans. Alors bien sûr, on peut toujours célébrer la victoire exemplaire de tel ou tel ou tiel, mais ce que Libération appelle des victoires pour l'histoire, ce sont surtout des victoires du communautarisme, et ce n'est pas avec ça que le Parti démocrate pourra présenter une candidature solide et fédératrice face aux Républicains dans 2 ans pour la présidentielle.
Trump n'est pas victorieux, mais il a des soutiens de poids.
Elon Musk, qui la semaine dernière appelait à voter républicain, fait la une de la Tribune avec ce titre éloquent. Avec Twitter, Elon Musk crée le business de la post-vérité. Le business de la post-vérité. Et la Tribune décrit chez Elon Musk un comportement erratique, lui faisant prendre des décisions irréfléchies, licencier massivement, offrir une certification du compte à n'importe qui, moyennant $8 par mois, diffusant lui-même des contenus conspirationnistes. Bref, conclut en substance la Tribune, au Trumpisme en politique succède le Trumpisme économique en la personne d'Elon Musk. Ce qui est assez curieux avec la presse, c'est qu'elle s'acclimate toujours mieux de la radicalité quand elle est de gauche, mais quand elle est libérale, quand les atypiques et les déviants ne sont pas de purs sociodémocrates, c'est plus compliqué. En vérité, l'illisibilité de la stratégie d'Elon Musk ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Ce qui est inquiétant, ce sont les faits, tout simplement les faits économiques, le départ d'annonceurs de Twitter, le désabonnement marginal de certains utilisateurs, et enfin que ce réseau social devienne à terme le club de tous les conspis de la planète, ce qu'il est déjà un peu d'ailleurs. Ceci dit, Twitter fait la une, mais Facebook licencie lui aussi près de 11 000 salariés, vous lirez ça dans les Échos. Pendant qu'Elon Musk prend la lumière, Zuckerberg, patron de Facebook, licencie lui aussi en essayant de se faire discret. Voilà pour l'actualité Made in USA.
Et pour le Made in France, il y a la une du Parisien.
Souvenez-vous d'Arnaud Montebourg en marinière dans le Parisien, c'était il y a quelques années seulement, alors ministre du redressement productif de François Hollande. Montebourg en marinière pour vanter les mérites du Made in France à l'époque. Tout le monde avait ricané, se souvient Sébastien Lernoux dans son édito du Parisien. Aujourd'hui, le Made in France est une affaire sérieuse. Et le quotidien fait le bilan des relocalisations soutenues par l'État dont le mouvement s'est accéléré avec la pandémie. Le Made in France est aussi des laboratoires pharmaceutiques et pour certains des expérimentations sur les animaux en France, chez nous, pour la science et notre santé. Pour ce qui est de notre sensibilité, faites attention en ouvrant Libération. À l'occasion de l'expo Musique Animale à la Philharmonie de Paris, le journal propose un libé des animaux et revient sur les travaux menés sur les singes, mais également les chiens, des chiens destinés au labo et élevés dans l'Allier et l'Yonne, en France donc. Les chiots du labo de Mézy, dans l'Yonne, explique Libération, partent vers les labos à l'âge de 8 ou 10 mois. Et ces expérimentations ne sont pas un fantasme d'activistes ou de bouffons du climat, comme les appellent Valeurs Actuelles. Selon le ministère de la Recherche, plus de 4000 chiens ont été l'objet d'une expérimentation en 2020, en France. Ça aussi, c'est du made in France. Le plus souvent des beagles, parce qu'ils sont, lit-on, dans Libération, gentils et dociles. Ce genre d'élevage ne connaît pas la crise. Les chiots sont vendus au labo entre 1000 et 1500 euros l'unité. Les animaux ne défilent pas, ne font pas de politique et ne tweetent pas, mais ils font leur musique et c'est donc le thème de Musique Animale à la Philharmonie. Existe-t-il des musicalités qui ne soient pas le propre de l'être humain? C'est la question. C'est la question que pose cette exposition. Je vous lis un extrait du papier sur un extrait du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, du papier de Libération. Ambiance sombre de forêt, un paysage sonore interpelle, composé in situ par le bioacousticien Bernie Krause. À la manière d'un peintre, ce scientifique et ingénieur du son enveloppe l'oreille d'une nuée d'oiseaux qui passent, frôlent, s'échappent, s'envolent en un chorus de l'aube, et les oiseaux s'accordent à la manière du la de l'orchestre. L'enchaînement se mue en enchantement. Salle suivante, une hypnotisante murmuration d'étourneaux filmée par des amateurs oriente le regard vers un cerf en plein brame.
Voilà, c'était le Jean Piat de la revue de presse version rock'n'roll, David Abiquia. Nous avons rendez-vous avec Christian Macarian et Franz-Olivier Gisbert.
Impossible de passer après ça.